Donc, moi, je viens vous parler de ce que je fais, en fait, toutes les semaines, le vendredi soir, sur France Culture. Donc, je vais vous parler, mais n'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de route, à les poser, parce que ça m'aidera aussi à avancer dans ce que je vais développer cet après-midi ici. Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs point de connexion avec entre l'émission et ici et ce lieu, à commencer par le nom de l'émission, puisque l'atelier du son, c'est aussi le nom d'un des espaces dont Alexandre s'occupe, si je ne me trompe pas. Et l'autre point de connexion, c'est qu'un des premiers invités, d'ailleurs, c'était Alexandre à l'époque de Planète Sonore, qui venait de paraître, enfin, une nouvelle édition, c'est ça qui venait de paraître. Et c'est vrai que ça va faire, donc en juin, ce sera la fin de la saison radiophonique et ce sera la quatrième, on aura donc achevé la quatrième saison de l'émission, ce qui est maintenant presque un âge vénérable pour une émission de radio. Ça change beaucoup, ça change vite depuis quelques années, mais donc là on a réussi à maintenir cet espace-là, donc le vendredi soir à 23h. Et le point de départ d'ailleurs de l'émission était pas vraiment une proposition formelle que j'avais faite à la direction de France Culture, ce qui est souvent le cas quand on commence une émission, c'est qu'on en a proposé l'idée et qu'on a formalisé sur le papier, qu'on a convaincu nos interlocuteurs. C'était plutôt en fait une sorte de base de repli. Parce que j'avais produit pendant 2 ans, donc dans le jargon radiophonique, produire, ça veut dire en fait qu'on a la responsabilité d'une émission, en tout cas à Radio France. Et donc j'étais le producteur d'une émission quotidienne qui s'appelait Les Passagers de la Nuit, qui était un espace là, de production sonore vraiment, de production de différentes formes sonores, de reportages, de documentaires, souvent documentaires à épisodes, de petites fictions, L'idée était de même de ne pas chercher forcément à définir les formes produites dans cet espace-là, mais par contre d'en produire un maximum. C'était tous les jours, tous les soirs, à 23h, c'était pendant 2 saisons, et de produire collectivement, donc d'accueillir des projets qui pouvaient venir en tout cas c'était ma politique, d'un peu partout. C'est-à-dire autant de gens qui étaient des professionnels de la radio reconnus et que je pouvais connaître je pouvais croiser dans les couloirs de la radio, que de gens qui pouvaient m'envoyer un mail et dont l'idée pouvait paraître intéressante et à qui on donnait les moyens de tenter, voilà, de faire des essais de radio, quoi, des essais d'idées sonores. Et donc, quand il s'agit de terminer cette émission, d'y mettre un point final, la question s'est posée de la suite. Et dans la deuxième saison de cette émission, le vendredi soir, j'avais gardé un espace qui s'appelait les Vendredis hors série, et j'invitais déjà à ce moment-là des gens dont l'activité était le son créatif dans tous les domaines que ce soit. Le point de départ vraiment, c'était de rendre compte d'une activité radiophonique précisément, une activité radiophonique assez pléthorique, amateur ou professionnel, dans des réseaux qui n'étaient pas des réseaux attendus quand on parle de puis France Culture. Et donc ça veut dire des structures associatives, ça veut dire du documentaire amateur, ça veut dire... j'avais, quand j'ai lancé ces Vendredis hors série, l'idée des 2-3 premières émissions, et on se disait ensuite, on verra ce qu'on y mettra. Mais finalement, c'était déjà l'embryon de ce qui est devenu après l'atelier du son, puisque, une fois que les Passagers de la Nuit sont terminés, j'ai dit, moi, j'ai envie de continuer ce que je fais le vendredi soir. Et comme on était prêt à me confier une heure hebdomadaire, j'ai dit je voudrais continuer ça parce que l'idée de départ qui était de se dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans le son depuis, qui repart on va dire dans le son depuis à l'époque, depuis on va dire une dizaine d'années, depuis la fin des années 90, début des années 2000, c'est un bouillonnement continu et grandissant et il faut pouvoir en rendre compte. Et le mieux pour en rendre compte, c'est quand même la radio. C'est-à-dire diffuser du son, ça se passe plutôt pas mal à la radio, en général. En ce moment, c'est un peu particulier. Mais, et donc, j'ai proposé, donc ça s'appelle plus, bah, on va dire hors série, puisque ce n'est plus hors série, c'était la ligne de l'émission. Et donc, on m'a proposé que ça s'appelle l'Atelier du Son. Je n'ai pas choisi ce nom-là, puisque c'est donc dans une case à 23h sur France Culture qui s'appelle Les Ateliers de la Nuit. Et chaque jour, il y a un atelier différent. Ça commence par l'atelier intérieur d'Aurélie Charron, et le lundi et le vendredi, ça se termine donc par l'atelier du son. Et entre-temps, il y a deux espaces documentaires et un espace de fiction, qui sont aussi des ateliers. Et donc voilà, j'ai conservé l'idée, l'envie de donner à entendre ce qui se passe dans le son créatif, dans les domaines sonores. Et avec, pour conséquence, finalement, d'utiliser quasiment le prétexte du son pour entrer dans différents domaines d'expression, qui ne sont pas d'ailleurs tous artistiques, stricto sensu, qui le sont beaucoup, mais pas que. Et ça m'a permis d'aller autant, donc évidemment, du côté des artistes sonores qui se déterminent comme tels. Dont le champ d'expression était déjà plus ou moins la radio, mais pas seulement, qui s'expriment eux-mêmes dans des cases parfois différentes ou à la frontière de différents domaines. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait une interview, par exemple, d'une artiste sonore qui s'appelle Aurélie Liermann, qui est flamando-rwandaise, enfin voilà, et qui vient plutôt du journalisme, et qui un jour s'est rendu compte qu'elle avait envie d'exprimer, journaliste radiophonique au départ, d'utiliser le son un peu différemment. Elle fait aussi du chant, donc elle a croisé un peu ça avec son parcours de chanteuse. Et à un moment donné, elle est revenue plusieurs fois au Rwanda, donc où elle est née, et pour exprimer le plus pleinement ce qu'elle ressentait, ce qu'elle avait envie de dire, et il a fallu qu'elle passe par une forme d'art sonore, pour le dire le plus largement possible, et donc qu'elle sorte du langage radiophonique, même si c'était les mêmes outils. Et ça, elle a commencé à l'art sonore il y a 2-3 ans, elle a déjà remporté plusieurs prix, et on s'est rencontrés lors d'un festival, et voilà, donc c'est une rencontre où, assez typiquement, je rencontre la personne et je me dis, il y a quelque chose à faire à la fois dans l'écoute de ce que la personne produit et dans le dialogue qu'on pourrait avoir autour d'un micro et croiser tout ça. Donc, artiste sonore, mais aussi poésie sonore, art contemporain au sens plus strict, c'est-à-dire, ça c'est, moi je ne cherche pas à définir d'où parlent les gens, mais voilà, quelqu'un comme Dominique Petitgan, quand on se rencontre, ben lui il est sur la scène de l'art contemporain, dans les galeries. Donc c'est comme ça que je l'accueille. Et puis, c'est par capillarité, par rencontre, par envie, le champ étant assez vaste, la musique contemporaine évidemment, la musique improvisée, ça arrive aussi naturellement que voilà, discuter avec certains artistes ou certains invités ouvre d'autres portes. Je suis encore moi, dans une position où j'apprends en marchant. Le domaine que j'explore est très vaste, et donc c'est en discutant avec les uns et les autres que d'autres portes s'ouvrent. Et par exemple, un exemple assez récent, il y a un an et demi, on s'est retrouvé, toute l'équipe des émissions de 23h, on s'est retrouvé à Berlin pour aller faire une série de reportages, chacun pour son émission. J'ai rencontré un artiste qui s'appelle Jacob Kierkegaard. Lui, je suis allé le voir parce qu'il faisait partie de l'exposition du MoMA à New York, qui s'appelait Soundings, qui était une grosse exposition d'art sonore. Et il y avait beaucoup d'artistes berlinois d'ailleurs dans cette exposition, dont lui, il est danois habitant à Berlin, et il me parle de Alvin Lucier, artiste américain. Or, quelqu'un d'autre, je ne sais plus qui, m'avait déjà parlé d'Alvin Lucier. On avait diffusé sa pièce I Am Sitting in a Room, où il s'enregistre dans une pièce en train de lire une phrase qui doit faire 1 minute, 1 minute 10. Qui commence précisément par I am sitting in a room, donc il se décrit lui-même en train de dire je suis assis dans cette pièce, je suis en train de m'enregistrer, etc., etc. Il utilise cet enregistrement, il le rediffuse dans la même pièce et il enregistre cette nouvelle diffusion. De ce nouvel enregistrement, à nouveau, il le rediffuse dans la pièce, etc., etc., et ainsi de suite. C'est dur. Et donc, il met tous ces enregistrements côte à côte. Il les monte les uns après les autres. Ça fait un quart d'heure. Mais ce qui fait que petit à petit, toute l'articulation, tous les mots disparaissent. Par contre, il reste toute la résonance de la pièce, la forme finalement sonore de la pièce. On arrive à une forme de drone à la fin, étonnant, presque électro. Donc cette déformation-là, ce travail sur la propagation du son, ça a marqué apparemment, ça date de 69, ça a marqué pas mal de gens qui travaillent depuis le début des années 2000. Et donc la suite, dans la série, plus je discute avec les uns et les autres, plus ça ouvre de portes et plus ça donne l'occasion de faire des émissions. J'ai enregistré un entretien avec Alvin Lucier il y a 15 jours, qu'on doit diffuser un jour prochain. Et la discussion avec lui, évidemment, continue de faire grossir un peu une forme de généalogie informelle dont la base serait l'émission. Parce que finalement, quand on regarde depuis 4 ans toute la série de domaines abordés, ils n'ont au fond, ils ont évidemment plein de points communs, mais c'est suffisamment vaste pour se dire que voilà, c'est dans cet atelier du son que ces gens-là se rencontrent à travers les émissions qu'on a pu faire. Donc voilà, je dis musique contemporaine, musique improvisée. Et puis après, c'est en se retournant sur les invités, sur les émissions faites, réalisées, que je me rends compte que c'est vrai que de temps en temps, il est question de jazz. C'est vrai que de temps en temps, il est question d'improvisation au sens de sujet à débattre avec des invités. Que les avant-gardes m'intéressent beaucoup, l'histoire des avant-gardes m'intéresse beaucoup. Que le hasard met sur mon chemin des rock critiques légendaires comme Grell Marcus ou Nick Cohn, donc anglo-saxonne, et voilà, moi ça m'intéresse d'aller rencontrer des gens dont le travail n'a pas été de faire de la musique ou de suivre des musiciens, mais d'en faire une matière littéraire et d'en faire quasiment un genre littéraire. Voilà, et puis depuis septembre, le fait de dire c'est quand même la quatrième saison, en fait si on part du vendredi hors série, c'est la cinquième saison de ce propos là j'ai voulu élargir encore, et donc là plutôt que d'aller uniquement dans les domaines du son créatif, c'est d'utiliser le son pour le croiser avec d'autres questions. Donc le son et la médecine par exemple, c'est une chose que pour laquelle j'avais vraiment aucune bille au départ. C'est une question que je me posais, mais je ne savais pas comment, au-delà de la musicothérapie, qui serait une porte d'entrée, comment aller un peu plus loin. Donc j'ai posé la question sur Facebook aux gens avec qui je suis en contact et qui m'ont envoyé des idées et d'illustrations sonores et musicales, des idées d'invités, etc. Beaucoup, beaucoup. Et donc on a fait cette émission, et qui aurait pu durer 3 heures d'ailleurs. Donc voilà, donc le son et la médecine, le son et les jeux vidéo, le son et le cerveau, la musique et le cerveau. Ça aussi, c'est un sujet qu'on m'a proposé d'aborder, parce qu'il y avait une conférence autour de cette question-là. Et donc voilà, avoir deux grands ponts de la neurobiologie autour de la table, un qui s'intéressait beaucoup à la question, l'autre moins, mais finalement se répondant bien. Voilà, ça fait partie des moyens pour, j'espère, renouveler un peu aussi le propos et le rythme de l'émission. Voilà, plus un reportage, choses comme ça. Donc ça, c'est les questions radiophoniques, en fait, de comment renouveler une émission tout en restant dans son propos. Ce dont je me rends compte aussi, c'est que, et qui peut rendre l'émission moins, plus peut-être difficilement compréhensible par des directions dont la représentation de ce que peut être la radio est souvent assez journalistique, c'est que moi je pense que c'est une émission qui n'est pas journalistique au sens où d'abord on ne me demande pas d'être dans une forme d'actualité. Je peux aborder une question ou inviter quelqu'un qui n'a pas un disque à vendre ou une exposition à promouvoir, et souvent ça donne d'ailleurs une grande liberté dans la manière de poser les questions aux gens, et ça permet de s'autoriser de partir de loin. Dans des cas de grands entretiens par exemple, ça permet une grande liberté éditoriale. Et donc le fait de ne pas être journalistique et d'avoir un domaine assez plastique, assez aux formes mouvantes, et enfin voilà, le fait d'avoir une question transversale moi j'ai l'impression d'une forme de modernité, d'intemporalité à ce qu'on peut faire. Quand je dis on, c'est qu'on. Donc moi je travaille avec une équipe, une petite équipe, une réalisatrice et puis une attachée d'émission, on appelle ça, voilà, qui m'aide à préparer les émissions. Ça nous, je pense que ça a une forme de modernité. D'inactualité, voilà, inactualité dans le sens où, voilà, je pense que si on, comme on peut réécouter les émissions assez longtemps après, elles restent relativement valables. Et l'autre chose qui caractérise l'émission aussi, c'est que, mais ça c'est mon trait de personnel, enfin un trait de caractère personnel, c'est que il faut en parler, quoi. C'est-à-dire que France Musique, par exemple, est une chaîne où on écoute vraiment beaucoup, vraiment en longueur les pièces. Moi, je peux pas. En sens où j'ai 1 heure par semaine. Donc, effectivement, il y a des pièces qui nécessitent qu'on se plonge vraiment dedans pour les comprendre, pour les ressentir complètement. Alors, en termes de pratique, moi, ça m'est très compliqué, même s'il y a des émissions où on a pu entendre 15-20 minutes de son. Et que ça, mais déjà, 15-20 minutes pour certaines pièces, c'est finalement court. Et c'est pas une, ça peut ne pas être une totalité. Et moi, mon parti pris, c'est. Il faut parler en fait. Il faut parler pour donner à entendre. En partant du principe que, effectivement, on est à la radio, c'est fait pour diffuser du son, mais on est à la radio et la radio a un pouvoir d'accompagnement, d'intimité, de proximité avec l'auditeur qui fait qu'on est là pour expliquer, pour donner envie, pour donner des pistes, pour donner à entendre évidemment, mais il y a certaines pièces dont on parle qui ne, à mon avis, ne peuvent pas s'entendre à la radio aussi bien que. Quand on décide de l'écouter chez soi et qu'on décide de la trouver quelque part. Donc, nous, on est là pour donner les pistes, pour dire que ça existe, pour dire où trouver ça, pour dire comment l'apprécier. Et le travail reste encore à faire, finalement, après. Mais donc, ce qui est parfois vécu comme un défaut par certains auditeurs, c'est-à-dire que ça peut paraître bavard. Alors j'essaie de trouver toujours le bon équilibre entre la parole et la pièce à écouter, quand c'est possible, d'écouter la pièce. J'essaie toujours de faire ça, mais c'est aussi un parti pris de parler. Alors c'est vrai que quand on parle de son, on va dire élaboré, à la radio, on se met forcément, et en tout cas en particulier à France Culture, on se met dans une lignée, en tout cas il faut avoir conscience d'une forme de lignée finalement relativement ancienne maintenant. On ne parle pas de nulle part. Donc ça m'est arrivé de faire des émissions, par exemple, je continue régulièrement à faire des émissions avec des gens du GRM, donc le groupe de recherche musicale. Qui est véritablement, voilà, qui dépend aujourd'hui de l'INA et qui est véritablement le lieu d'un héritage particulier à la fois de la musique concrète, de l'électroacoustique et puis qui est une histoire aussi de radio. Donc pour être très clair, pour moi, en tout cas mon idée, c'est qu'il y a un point de départ qui est 1942, le studio d'essai. Le stage de Beaune, voilà. C'est Pierre Schaeffer, ingénieur en chef de la radio, polytechnicien, qui rassemble des comédiens à Beaune pour un stage, pour leur apprendre à utiliser la radio. Donc ils s'enregistrent, c'est un stage, ils montent le studio d'essai après à Paris, qui est un lieu, voilà, de recherche de radio, qui se transforme ensuite à Libération, naît le club d'essai dans les mêmes locaux, qui est un peu un moment, qui est une antenne hein, sur Paris, d'essai radiophonique, où on invente des choses, notamment les dramatiques radiophoniques. C'est là que les dramatiques radiophoniques sont vraiment inventées, qui sont une des marques de fabrique marquantes de la radio jusqu'à la fin des années 60, même si aujourd'hui ça continue, les fictions radiophoniques, mais ça s'est quand même transformé, heureusement, depuis ce moment. C'est une radio de poètes, c'est dirigé par Jean Tardieu, qui est quand même un dramaturge et un poète. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, la radio, les programmes de la radio sont dirigés par un autre auteur et poète qui s'appelle Paul Gilson. Il y en a d'autres comme ça, des auteurs, des écrivains qui ont des postes à responsabilité importante dans cette radio de la Libération. Pendant ce temps-là, Pierre Schaeffer donc, crée le groupe de recherche sur la musique concrète. Donc, il invente les prémices de l'électroacoustique. Enfin, il invente. Il y a d'autres inventions, hein. Il y a eu, même en amont, notamment dans la musique de film. Mais c'est quand même un lieu de recherche sonore et de théorisation aussi du son. Et ça se transforme en GRM un peu plus tard. Et le GRM donc, existe toujours. Il y a le service de la recherche. De l'ORTF au début des années 60, qui est un endroit qui est sur la recherche sur le son et sur l'image. Donc on est dans un moment de curiosité où le son est une matière qui pose des questions, est une matière qui... ça ne se passe pas qu'en France d'ailleurs, hein, ça se passe aussi autour de la RAI en Italie, évidemment en Allemagne, à Cologne. Il y a des choses qui se passent aux États-Unis, mais tout ça, c'est, il y a quand même un mouvement là, autour de ça. Et juste pour poursuivre un peu la généalogie, il y a l'atelier de création radiophonique, qui est une émission qui est lancée en 69 sur France Culture, une sorte de revue radiophonique, un espace libre aussi d'essais, de tentatives, documentaires, fiction, très mélangés. Et c'est un homme qui s'appelle Alain Truta qui est à la tête de cet endroit-là, et c'est lui qui a proposé ce projet en même temps qu'avec Jean Tardieu. Ils l'ont proposé ensemble. Jean Tardieu était sur le point de partir à la retraite, et juste avant, ils ont proposé ensemble cet espace qui était donc aussi dans la lignée du club d'essai. Et l'atelier de création radiophonique a duré jusqu'en 2011, vraiment comme un espace comme ça de création. Dans les 10 dernières années, dirigé par Frank Smith et Philippe Langlois, c'était un endroit aussi où on confiait la radio à des artistes. C'était vraiment devenu ça, artiste sonore ou pas artiste sonore. Donc aujourd'hui, l'atelier de création radiophonique existe toujours, mais c'est une fois par mois, un espace que je dis, c'est devenu autre chose. Mais jusqu'en 2011, c'était quand même demeuré. Il y avait les nuits magnétiques, surpris par la nuit. On avait eu sur un temps beaucoup plus court, donc les passagers de la nuit. Et de l'autre côté, il y a une autre forme de généalogie donc, qui est pour moi aussi importante, plus grand public, plus grand public tout simplement. C'est L'Oreille en coin, qui était une émission qui a duré plus d'une vingtaine d'années sur France Inter, le week-end, où là on était plus dans le reportage, dans faire entendre l'extérieur, dans une forme de radio plus populaire, mais avec la même exigence de forme, et une personnalité d'ailleurs qui fait le lien entre toutes ces différentes formes de radio, et qui est passée d'ailleurs par les dernières années du Club d'essai. C'est Yann Parentoen, qui est un ingénieur du son, un technicien de Radio France, et qui a fait, qui s'est autorisé, qui est sorti un peu lui-même pour produire des documentaires au long cours de 2-3 heures, qui a eu le prix Italia en 80, qui est le grand prix enfin, c'est pas que des prix de radio d'ailleurs, le prix Italia, mais il y a notamment des prix de radio de documentaires assez prestigieux, reconnus. Et Yann Parentoen a travaillé en tant que technicien pour toutes ces radios-là et était capable de. Et je l'ai rencontré pour ça d'ailleurs, pour parler un peu de toutes ces formes de radio. Il est mort il y a 10 ans, voilà, début mars, ça faisait 10 ans pile. Et c'est une figure que j'ai rencontrée encore étudiant et qui fait le lien aussi avec un autre espace qui existe toujours, qui est Arte Radio. Il a été un peu la référence, il n'a pas dû travailler à Arte Radio, qui est cette radio web qui dépend d'Arte France. Mais il était, voilà, il n'a pas travaillé, mais il était la référence de ceux qui ont conçu Arte Radio. Donc voilà, moi quand en 2011 je commence l'atelier du son, je suis nourri de tout ça, en termes de radio, et finalement aller vers les artistes qui utilisent le son, aller vers les gens qui utilisent le son au sens le plus large, c'est aussi sortir de ça. Ou à l'inverse, c'est nourrir tout ça avec ce qui est devenu la pratique sonore. Parce que la pratique sonore, quand je remonte cette généalogie-là, la pratique sonore, elle ne peut se faire que dans les murs de la radio quasiment. C'est à la radio qu'on trouve les machines, c'est à la radio qu'on trouve la bande magnétique. Alors il y a toujours des francs-tireurs, des gens qui sont à côté, qui fabriquent à côté. Mais massivement, il y a quasiment un état de monopole dans l'élaboration sonore jusqu'à il y a 15 ans. Et donc, et à partir du début des années 2000, il y a des choses qui émergent. Et l'atelier du son, l'idée, c'est vraiment d'accompagner ce mouvement totalement contemporain, qui est ce bouillonnement sonore, qui s'est traduit donc en 2001, 2002, 2003 par des festivals Kinès comme à Brest ou à Nantes, par Arte Radio Kiné, par exemple, qui sort de nulle part, par pas mal de choses, la CSR de Bruxelles, par exemple, la création sonore radiophonique de Bruxelles, structure totalement hallucinante, qui est une réponse à la crise de la radio en Belgique, mais qui a réussi à développer une identité. C'est un lieu, c'est une association, c'est un lieu de production de radio élaborée, mais qui n'est pas un lieu de diffusion. Donc c'est une association qui, comme une sorte de boîte de prod de radio et documentaire ou de fiction, voilà, des sortes, ces formes de quasiment d'anomalie par rapport au système précédent, ça naît à une époque un peu comme des champignons après la pluie. Donc l'idée était vraiment de rendre compte de tout ça. Après, en regardant qui est invité, qui passe dans l'émission rétrospectivement, je me rends compte qu'il y a des rendez-vous réguliers, par exemple avec Charles Penquin, qui est un poète performeur, qui pourrait se retrouver dans des émissions de poésie plus que dans des émissions sonores, mais pour moi, il y a voilà, dans sa performance, dans la voix, dans la manière de dire les mots, il y a à la fois, moi je trouve, évidemment, ceux qui reviennent souvent, c'est des gens que j'aime bien, avec qui ça se passe bien, donc voilà, mais Charles Penquin revient de temps en temps, Olivier Cadio, l'écrivain, qui a sorti un livre il n'y a pas très longtemps, là, Providence. C'est quelqu'un que, voilà, des gens que, une sorte de conversation qui se poursuit régulièrement, sans qu'on la termine, jamais vraiment, qui travaille le son de temps en temps avec Rodolphe Burger, le musicien, mais qui a un propos sur le son, qui l'écrit, qui en parle, qui en fait une matière littéraire. Donc on n'a pas forcément grand-chose à faire écouter, mais on en discute avec un passionné, donc c'est toujours intéressant. Voilà, je parlais de Dominique Potigan. Chaque année, une fois, je sens que ce soit programmé, Dominique Potigan passe dans l'émission. Toujours quelque chose à raconter. Alors, ce qui est intéressant avec Dominique Potigan, je sais pas, il est déjà passé ici ou. Ouais? Il aurait dû.
Je l'invite pour la prochaine saison
Ouais?
du post-diplôme.
Ce qui est.
Il expose à la Cité à France.
Oui, voilà, c'est ça, il a une exposition.
Ah, c'est bon.
Ce qui est drôle, c'est que en 4 ans, peut-être même que j'ai invité je pense que c'est la cinquième année que je l'ai invité, et petit à petit, la conversation devient plus ouverte, il se livre un peu plus. C'est pas toujours simple de parler, un, de ce qu'on fait, deux, surtout quand c'est un ressort intime, trois, quand on considère que tout est dit dans l'œuvre et qu'on n'a pas à la commenter, ce qui était un peu sa position au départ. Et donc, petit à petit, voilà, j'ai l'impression. Moi, je ne m'avoue pas vaincu et je continue. Et finalement, voilà, il y a une relation qui naît comme ça, qui fait qu'il y a un propos qui se développe, mais pas sur 1 heure, mais sur 5 ans. Donc ça, on peut s'autoriser ça. Et puis, il y a des rencontres, voilà, des choses hallucinantes. C'est-à-dire que je me rends compte qu'il y a un Français qui a fait partie des inventeurs du son synthétique. C'est-à-dire que s'il y a du son qui sort de cet ordinateur ou du téléphone, c'est en partie, mais dans une belle partie, grâce à lui et à ses recherches. Donc il s'appelle Jean-Claude Risset, il est compositeur, il est médaille d'or du CNRS et médaille de la SACEM en tant que compositeur, pianiste. Il a notamment inventé, on a fait une émission, malheureusement il ne pouvait pas venir, donc on a fait un duplex, il était à Marseille à ce moment-là. Une émission, on a passé un quart d'heure à parler du son de la trompette synthétique. Donc, il nous a passé les premiers essais de son de trompette par ordinateur, dont les essais ratés, c'est-à-dire que par où on passe pour trouver un bon son de trompette, et on parle quand même là du début des années 60. Donc, il a été chercheur au laboratoire Bell, de la compagnie américaine Bell, au début des années 60. Il avait rencontré Edgar Varèse, qui était à New York à ce moment-là. Et donc, quand quelqu'un comme ça synthétise non seulement le son de la trompette, mais en lui-même le compositeur, le musicien et le chercheur capable de parler de la structure même du son, et dans une heure nous faire presque croire qu'on est capable de comprendre le langage scientifique sur ce propos-là, c'est assez magique. Donc voilà, il y a des sur ce genre de rencontre, moi me laisse quasiment fan d'un parcours que j'ignorais jusque-là. C'est en ça que je disais tout à l'heure que moi je découvre au fur et à mesure. Je pense que le jour où j'aurai l'impression d'avoir fait le tour ou de remâcher, parce que c'est pas quand je réinvite, c'est pas pour refaire, c'est évidemment pour aller plus loin. Quand j'aurai l'impression d'avoir passé le cap où justement on a l'impression de se répéter, là il faudra changer son fusil d'épaule. Mais c'est pas encore le cas. Et Jean-Paul Risset, il en était encore question au début de l'année parce que là, ses écrits, évidemment, c'est un chercheur, il a beaucoup écrit. Ses écrits sont édités, on commence à être édités de manière ordonnée. Et donc voilà, c'est passionnant de se plonger dans l'univers de quelqu'un comme ça. Parmi ceux qui reviennent de temps en temps, il y a la compagnie Oui Dire, voilà, encore un. Des gens qui décident de faire tout un travail d'édition sonore. Notamment, ils ont édité des pièces de Yann Parenteuil qu'ils avaient rencontrées au début. Ils existent, alors pas, ils existent pas depuis 2000, mais depuis 1995. Voilà. Donc, ils étaient un peu en avance sur ce mouvement-là dont je parlais, de bouillonnement sonore. Mais ils en font totalement partie. Travail graphique, de photos, de dessins, et puis travail d'édition. Notamment, ils se sont fait connaître à un moment donné par les cartes postales sonores, qui sont de vraies cartes postales, avec des petits CD qui sont bloqués dans la carte et qu'on peut envoyer par la poste et écouter chez soi. Ce qui avait beaucoup plu à Yann Parenteuil, parce qu'il considérait que c'était une autre forme de radio. C'est-à-dire qu'on émet du son, toujours, mais par la poste. Et c'est pour ça qu'il leur avait donné quelques productions sonores, dont deux cartes postales qu'ils ont éditées il y a une grosse année. Donc voilà, ou une figure comme Bérangère Maximin. Moi j'ai toujours l'impression quand je parle autour de moi à la radio, en tout cas à certains responsables de la radio, de ce que je fais, et ils ont l'impression qu'on parle d'une vieille radio, voilà, parce que j'ai parlé de cette généalogie. Je pense qu'ils ont cette généalogie en tête, et ils ne voient pas en quoi c'est actualisé, non seulement actualisé parce qu'il y a des gens comme Bérangère Maximin qui doit avoir 35 ans, quelque chose comme ça, qui fait une électro d'abord en performance, mais une électro très consciente de ce qu'elle est, très assez savante et en même temps totalement percutante. Donc voilà, il n'y a rien de poussiéreux dans une production de Bérangère Maximin. Mais je pense qu'ils n'ont pas conscience justement que c'est actualisé par de nouvelles générations. Et c'est ça qui est étonnant. Mais c'est étonnant sans l'être, c'est-à-dire que tout mon propos, c'est de montrer que la radio a été débordée par le son élaboré. Elle a été débordée, son monopole a été enseveli sans qu'elle y puisse rien. Et peut-être que c'est pour ça que c'est, j'ai l'impression que ça, c'est parfois moins bien entendu dans ses propres murs qu'à l'extérieur. Et pour autant, moi, c'est une forme de militantisme. C'est de dire que la radio doit maintenir un rôle, doit avoir un rôle. Ne serait-ce que déjà de donner écho, de faire écho à ce son qui la déborde, c'est la moindre des choses, c'est la moindre des politesses. D'autant que, par contre, moi, je suis à peu près persuadé que c'est ce travail qui a été fait pendant des années dans les murs de la radio qui, par capillarité, par jeu de domino, par tout un flux qui nous échappe, la déborde aujourd'hui. Mais évidemment, elle est une des grandes racines de ça. Voilà, sur la programmation de l'émission, ce que je peux dire, pour être très clair, c'est bon, de temps en temps, il y a des émissions qu'on programme plusieurs mois à l'avance pour des histoires de disponibilité ou d'envie d'être concomitant avec quelque chose qui se passe, mais la plupart du temps, par exemple, si j'ai programmé depuis septembre une émission qu'on va enregistrer en juin, mais là ça c'est vraiment rare, soit aussi longtemps à l'avance, avec un auteur américain qui s'appelle Alan Weiss, qui passe une partie de son temps à Paris, une grande partie de son temps à New York où il enseigne à New York University et une partie de son temps au Japon. Enfin, lui, il a un emploi du temps qui est très cadré. Donc, quand je lui ai proposé de faire une émission en septembre, il m'a dit d'accord, mais début juin. Il a fait le premier livre dans les années 95 sur la radio d'avant-garde aux États-Unis. Voilà, il a fait ça et il parle français très bien. Il a fait plein de. Il a un propos sur le son qui est fascinant. Donc là, je ne sais pas encore quelle forme aura l'émission. Évidemment, d'abord toute l'émission pour lui, mais après, qu'est-ce qu'on mettra dedans, je ne sais pas encore. Mais en dehors de ce genre de cas de figure, c'est le hasard, c'est les rencontres et c'est des envies ponctuelles, de croisements aussi. Voilà, des discussions comme on en aura peut-être tout à l'heure qui pourront me donner des idées. Ce qui s'était passé avec Régnier Le Ricollet qui était invité, l'artiste Régnier Le Ricollet que j'avais invité, je crois, en octobre. Et ça faisait quelques temps que son nom était, j'avais noté à droite à gauche, et j'en avais discuté avec Philippe Langlois qui enseigne à l'école d'art du Mans, aux Beaux-Arts du Mans. Voilà. L'autre question, c'est la question de la nuit. Parce que c'est une émission de 23 heures. Et donc tout à l'heure, je parlais de la durée d'écoute et mon militantisme sur la parole autour de ce qu'on écoute. Mais c'est vrai que le fait d'être le vendredi à 23 heures sur France Culture, qui est évidemment le carrefour d'écoute, tout le monde écoute à ce moment-là. Non, mais qui est sans doute, voilà, un des recoins de la radio. Mais c'est pas mal, en fait. Ce n'est pas du tout un choix de ma part, mais c'est pas mal. C'est-à-dire que d'abord, il y a plein de gens qui sont sur la route à cette heure-là. J'ai l'impression, en tout cas, souvent les gens qui ont le mieux écouté une émission, pas forcément le plus, mais le mieux, qui sont capables d'en reparler, qui sont capables de dire où ça les a emmenés, sont ceux qui sont avec les mains sur le volant, ça les empêche de changer. Et ils sont sur la route, quoi. Ils sont sur la route vraiment, même mentalement, ils sont sur la route de l'émission. Ça marche pas mal. Et puis la nuit, ça permet vraiment d'être dans un. Alors les émissions sont, on va dire, aux trois quarts enregistrées en fin de matinée, mais ça n'empêche qu'on est dans un studio et qu'on peut s'imaginer être à 23h. Mais le quart restant, c'est toujours assez exceptionnel, les émissions en direct. On peut faire moins de choses en direct, c'est-à-dire que les gens en duplex ou les entretiens. Traduit, c'est compliqué de le faire en direct parce que si on traduit, il faut traduire ma question. Quand on monte, quand on enregistre, on peut monter et enlever la traduction de ma question, c'est beaucoup plus fluide. Il y a plein de raisons, les disponibilités aussi évidemment, qui font que c'est aussi plus simple d'avoir quand même la possibilité d'enregistrer. Mais quand c'est en direct, il y a ce moment d'impression d'être vraiment dans un sous-marin et d'avoir la liberté d'envoyer le son, d'avoir une liberté par rapport à la matière, d'être beaucoup moins soumis au rythme extérieur. Qui serait le rythme de la journée. Donc, et puis, on s'autorise plus facilement de faire écouter des choses qui vont au-delà de 5 minutes. C'est vrai que quand on est dans la journée, ça n'existe plus. Il y a des moments où on écoute plus de 5 minutes de pièces sonores ou de musique. Donc, c'est sûr qu'on aurait plus d'auditeurs pour une émission à midi et demi. Malgré tout, je pense que. On ne pourrait pas faire ce qu'on fait, et que là, il y a vraiment une grande cohérence quoi, par rapport au moment de la diffusion. Donc voilà pour ce qui est de l'émission. Et c'est vrai que, comme disait Alexandre tout à l'heure, il y a eu un moment, donc je suis sorti d'une émission quotidienne qui était très 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 prenante. Une émission de création où j'avais un rôle de chef d'orchestre et de couturier dans le sens où il fallait coudre ensemble des pièces de patchwork sonore tous les soirs. Et une manière de coudre tout ça, c'était d'écrire entre ces morceaux. Donc il fallait beaucoup écrire. Écrire des bribes de fiction. On n'était pas du tout dans l'explication et la description, où il y avait des petits lancements évidemment des éléments, mais on n'était pas dans une production journalistique. Par contre, il fallait écrire, il fallait raconter, quoi. Il fallait une narration, même si c'était une narration un peu détachée, un peu distendue, mais il fallait une narration. Et donc j'ai beaucoup écrit et beaucoup été sur le pont pendant 2 ans. Et c'est vrai que de retomber dans une émission qui était plus un magazine, et qui surtout qui n'était qu'une fois par semaine et non plus 5 fois par semaine, m'a laissé dans un élan et une sorte de manque par rapport à une activité comme ça d'écriture. Et ça a donné lieu à l'idée de reprendre certains textes que j'avais écrits pour l'émission à l'époque. Et je me suis dit, je vais les prendre sur 2 ans, il y en avait 200 petits textes. Je vais en garder 50, ça va les mettre côte à côte, ça va faire un livre, ça marchait évidemment pas du tout. Parce qu'on n'écrit pas pour la radio comme pour le papier, et parce que au-delà de ça, le patchwork qui peut fonctionner dans un flux radiophonique, ben, quand il tombe sur le papier, si c'est pas prévu pour ça, ça marche pas. Donc en fait, j'en ai gardé quelques-uns, et puis j'ai beaucoup écrit autour pour faire ce livre, La Bosse du Géranium, qui est donc une fiction. Et qui est dans la même couleur que ce qu'on pouvait faire à ce moment-là à la radio, mais qui est quand même totalement différent, qui reste quelque chose d'assez décousu, parce que c'est un mélange de différentes formes, de journal, de notes, d'un récit, mais fonctionne, je me suis rendu compte de ça un peu après, qui fonctionne un peu comme un montage en fait. C'est du montage comme du montage de radio. La radio, moi, m'a appris la question du rythme, je pense, beaucoup. C'est un truc fondamental, que ce soit quand on regarde une grille de programme de loin ou dans les détails d'une émission, la question du rythme, de la variation des matières, c'est quelque chose qui est structurant et ça a été mon apprentissage. Mais même quand, sur le livre que j'avais fait sur l'oreille en coin dont je parlais tout à l'heure, j'ai fait la biographie de cette émission de radio, ça a été mon école de radio, d'aller rencontrer des gens qui en ont fait et qui ont inventé des choses en radio. Et la première chose qu'on m'a raconté, c'est la question du rythme. En tout cas, ce que m'ont raconté les concepteurs de cette émission, c'est la question du rythme. Et donc ça, c'est quelque chose de transversal, vraiment sur toutes les formes d'expression que je cherchais à avoir, qui est comment relancer, comment se poser, comment trouver une syncope, comment trébucher, enfin voilà. Et donc la question de l'écriture et du son, donc il y a eu ce livre-là, il y a eu une commande de Mercure de France pour sa petite collection Le Goût de, qui sont des petites anthologies, voilà, c'est ce livre-là, c'est des petites anthologies sur un même thème, donc des extraits de textes littéraires traversés par un même thème. On m'a proposé de faire ça pour la radio. En fait, je trouvais plus intéressant de faire la radio et autres sons, ce qui permettait d'élargir un peu les époques, parce qu'il y a un moment où on ne peut plus remonter trop loin pour parler de radio dans les textes littéraires. D'autant qu'on me demandait aussi des textes, pour l'anecdote, libres de droit. Donc si on veut parler de radio et que ce soit des textes libres de droit, ça limite la période. Et donc là, ça m'a permis de me rendre compte qu'il y a des textes assez fascinants, quoi. Des textes totalement fascinants. Alors il y a les paroles gelées, les fameuses paroles gelées de Rabelais dans le Carlivre, où il y a cette scène donc de paroles que c'est Pantagruel qui entend. Et donc les paroles sont gelées. Donc c'est une métaphore de l'enregistrement. Donc, pour l'époque, c'est totalement hallucinant à imaginer. Il imagine ce que peut être l'enregistrement et il la réécoute. Sauf que quand elles sont gelées et qu'elles dégèlent et qu'on les entende, ces paroles, on ne peut plus les réécouter. Donc c'est pas totalement l'enregistrement, mais c'est pas totalement le jeu de l'enregistrement, mais c'est quand même assez fort. Autre texte assez dingue là-dessus, c'est La Nouvelle Atlantide de Francis Bacon, le philosophe anglais, qui est une parabole d'une île où il y a notamment la Maison des Sons sur cette île. Et donc, en lisant le texte, on se rend compte qu'il parle de ce que peut être l'amplification du son, l'enregistrement, l'amplification du son. Même à la limite, on peut le lire comme une préscience de ce que peuvent être les réseaux, parce que c'est un croisement de réseaux sonores. Ça, c'est une première chose. Et puis l'autre chose, c'est je me rends compte que le son, au-delà de la radio, mais la radio aussi, porte en eux, le son et la radio, alors c'est l'invisible, c'est la possibilité d'une autre dimension. La radio, c'est quand même La radio, c'est quand même. C'est, normalement, c'est un truc. Donc, c'est un truc auquel on est habitué. Mais c'est quand même. C'est le don d'ubiquité. Donc, c'est. Je suis à un endroit et je suis à 1000 autres endroits en même temps. Et en plus, quand on enregistre l'émission qui est diffusée, c'est. Je ne suis même pas à un endroit, je n'y suis plus, mais je suis à 1000 endroits à la fois ailleurs. Donc, quand on dit ça comme ça, ce côté occulte de la radio. Ça peut paraître un peu bête, mais si on le saisit en termes de littérature, en termes d'écriture, c'est une ouverture sur des possibilités, sur le fantastique, sur la bizarrerie, sur une forme de surréalisme. Enfin, on peut tordre la réalité, ce qui pour moi est un des rôles de la littérature, de tordre la réalité. Et un des outils, c'est le son. Et c'est la radio. Alors, il y a pas mal de... Il y a évidemment plein d'écrits, de romans contemporains où il y a question de radio, donc j'en ai avec quelques-uns. Mais voilà, c'est ça, c'est l'invisible, c'est le souvenir aussi. C'est quand même, on a tous vécu le fait d'entendre une voix enregistrée qui nous remet un souvenir au présent. Enfin, c'est un jeu avec le temps, quoi. On peut travailler le son pour jouer avec le temps de manière très très forte. Et puis du son, c'est une vibration, donc c'est une présence, quoi. Donc c'est pour un poète ou pour un romancier, il y a une matière à creuser qui est assez fantastique. Donc voilà, ça c'était des choses dont je m'étais rendu compte dans mon travail petit à petit, par instinct ou en discutant avec les uns les autres. C'est des choses que j'ai comprises encore une fois en rencontrant des gens de radio, ça a été assez important. C'est le premier livre que j'avais fait sur l'oreille en coin, qui était vraiment juste le but de savoir comment on faisait la radio, quoi, grosso modo. Je crois pas qu'il y ait vraiment. Il y a quelques écoles de radio, mais le mieux c'est quand même d'aller voir les gens qui en ont fait, qui en font, qui ont débuté là-dedans, enfin, surtout quand. Avec ce livre-là, sur l'oreille en coin, j'ai rencontré plein de gens qui avaient 20 ans et qui sont retrouvés dans un vrai espace de collectif d'invention de radio. Donc c'est toujours satisfaisant d'aller voir des gens qui pour leur raconter ce qui pour leur demander de raconter ce qu'ils ont fait quand ils avaient 20 ans. Donc parce que les gens parlent, quoi. C'était fondamental pour tous ces gens-là. Donc voilà, ça m'a appris beaucoup de choses. Donc voilà, tout ce que j'avais un peu saisi par instinct, tout d'un coup s'est recollé au moment d'aller piocher dans des textes littéraires pour les comprendre, les présenter, les commenter. Et ça m'a aidé, et ça m'aide dans ce que je tente de faire dans l'écriture. Après, c'est plus des histoires d'emploi du temps, de comment. Parce que c'est pas la même écriture, c'est pas la même temporalité, donc c'est toujours. Il faut mettre les choses dans le même élan entre la radio et l'écriture, c'est pas toujours évident. Et une des choses que je cherche à faire là en ce moment, c'est un projet qui mêle un peu tout ça, c'est-à-dire à la fois l'écriture littéraire, le son, et puis un usage un peu, toujours dans l'idée de dire c'est contemporain, c'est maintenant, un usage vraiment contemporain de ce qu'on peut faire avec le son. Et c'est un projet qui est en train de, qui devrait voir le jour début octobre, qui s'appelle Sur les bancs, et qui est, dont l'idée est la suivante, c'est dans les parcs, sur les bancs même, avoir un petit flash code, un petit QR code. Et puis aussi une petite URL qu'on peut entrer dans son téléphone avec un casque, qu'on peut entrer, et on se retrouve, on écoute et on se retrouve assis sur le banc au milieu d'une fiction, en train de se dérouler une fiction sonore. Une fiction sonore enregistrée et diffusée en binaural, donc cette technique de son immersif. Et l'histoire se passe vraiment sur le banc. Les personnages sont autour de nous. Une forme de réalité augmentée sonore, quoi. Ils sont évidemment pas visibles, mais ils sont là, enregistrés dans le lieu, une histoire rapide, de 3 minutes, qui a été écrite en fonction du banc même où on est assis. Donc, il est fait référence à l'environnement qu'on a sous les yeux. Et l'idée, c'est qu'il y en ait sur tous les bancs, il n'y en aura pas sur tous les bancs, mais que dans quelques parcs, il y en ait quelques-uns. Et on est en train de. Je dis on parce que je travaille là-dessus avec une, pas avec la radio, mais avec une maison de production. Et on aura quelques-uns, voilà, comme ça, disséminés pour commencer dans un ou deux parcs à Paris. Puis on va essayer de faire. Et je dis littéraire parce que les textes sont commandés à des auteurs, des romanciers contemporains, quoi. On commence doucement, mais c'est en train de se développer. Et là, tout d'un coup, ce projet, je me suis rendu compte un peu après, mais marie un peu rejoint en tout cas un peu toutes mes dernières activités autour de soit des mots, soit du son. Et je suis venu avec quelques sons que j'ai mis là, parce que j'ai parlé des rencontres un peu qui m'ont frappé, mais il y a des sons qui m'ont vraiment frappé, et notamment un qui s'appelle Frozen Lake. Pardon?
C'est maintenant.
Bah oui, mais si vous le dites avant. Effectivement, c'est Marc Namblard qui est audio-naturaliste dans les Vosges avec Olivier Namblard. Et là, il a enregistré. C'est naturel en fait, c'est un son naturel. C'est près d'un lac gelé. Il doit être 7-8 heures du matin, 7 heures du matin. Et en fait, le lac est en train de dégeler. Et il savait que dans certains moments où quand la nuit a été très froide, mais qu'il y a du soleil assez fort très tôt dans la matinée, quand le lac est en phase de dégel, il y a ce type de son qu'on peut entendre. Et là, il est au bord du lac, il a fait un peu un montage pour enlever les bruits de voitures qui passent un peu au loin, parce que c'est pas très loin de nous. Et c'est absolument pas c'est pas de l'électro, c'est pas repris. Et c'est du son naturel. Je crois pas. Je crois qu'il est juste comme ça, avec. Après, il est très bien équipé, mais non, je crois pas qu'il est une femme. Voilà, ça dure 48 minutes. J'ai ramené aussi une pièce de Dominique Petitgand, puisqu'on en a pas mal parlé, que vous connaissez, j'imagine. Ouais. Toujours bien.
Le soir. On était 5. On avait des chaises. On était 5. Mon papa, maman, ma soeur, mon frère, moi, plus ses chaises. Et on avait sur le bouton par le deuxième étage. Et dès que c'est arrivé au deuxième étage, il n'y a pas eu la secousse habituelle. Parce qu'habituelle, on monte un peu plus, puis on redescend, ça fait un coup sec. Il n'y a pas eu ça, donc la porte ne s'est pas ouverte. Et on était juste devant l'entrée, quoi. On était bien à ras du sol, on était bien. Et ça s'est pas ouvert. Donc on a sonné, il devait être dans les 10h30, 11h. Avant d'appeler, papa, il a essayé d'ouvrir les portes. Mais il n'a pas réussi. J'avais peur. J'avais peur parce que déjà papa s'énervait. Et j'avais peur que le câble lâche. J'avais peur, je sais pas, de me blesser. Je sais pas, c'est bizarre quand j'aime. Puis j'avais faim. Et donc on a sonné, papa a sonné, il commence à s'énerver. Ils sont venus, ils ont appuyé sur un bouton, puis la porte s'est ouverte. On est rentré chez nous. Donc c'était passé comme ça.